Et pour l'heure, à 18h, c'est l'heure du journal. Benoît Bouscarel, bonsoir Benoît.
Bonsoir. La suite du déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Il doit se rendre demain à Ouvéa, sur les lieux de l'assaut qui avait fait 21 morts en 1988. La quasi-totalité des familles souhaite que je vienne à Ouvéa, déclare ce soir le chef de l'État, qui confirme qu'en ce jour anniversaire demain, jour toujours sensible sur place, il se rendra bien sur la tombe des victimes de l'assaut. Reportage à suivre de Bertrand Galichet. 1000 euros d'amende pour le premier membre des Black Blocs condamné. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé tout à l'heure sa première condamnation liée aux violences du 1er mai à Paris. Tim, 25 ans, avait choisi d'être jugé tout de suite, sans délai pour préparer sa défense, compte rendu d'Antoine Marette. À l'étranger, l'Académie Nobel aurait-elle touché le fond pour enfin peut-être remonter? Elle a annoncé ce matin le report d'un an de l'annonce du prix Nobel de littérature. Encore un soubresaut après les révélations de MeToo, mais aussi peut-être le signe d'une prise de conscience de l'ampleur du problème et peut-être donc le début d'une solution. C'est ce que nous dira Anne-Françoise Hiver à Malmö, en Suède. La suite du déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, dans une certaine tension, elle est ressentie sur le terrain à 6 mois, jour pour jour, du référendum sur l'autodétermination de l'île. Et alors que les différentes communautés sur place s'apprêtent à commémorer, chacune à sa manière, les événements de la grotte d'Ouvéa, 30 ans après, c'est demain, jour anniversaire, que le président de la République se rendra sur les lieux de l'assaut qui avait fait 21 morts en 1988, avant de prononcer à Nouméa un discours sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Reportage de notre envoyé spécial Bertrand Galichet.
C'est d'abord un incident mineur qui confirme la polémique autour de cette visite prévue à Ouvéa. Tandis qu'Emmanuel Macron s'entretient avec les habitants et les forces de l'ordre d'un quartier défavorisé de Nouméa, deux ou trois personnes sont écartées par la police du périmètre où elles avaient déployé une banderole indépendantiste.
Bienvenue en Nouvelle-Calédonie, pays en voie de décolonisation. Puis du coup, on est dans un État français où on nous interdit la liberté d'expression. Et ils se sont fait embarquer parce qu'ils avaient déployé une banderole où il y a marqué « La colonisation, crime contre l'humanité ».
Des protestataires qui dénoncent la venue du président français demain à Ouvéa. En cette date anniversaire du 5 mai, ils y voient une provocation.
C'est un manque de respect par rapport à la date, dans s'abstenir, parce que comme c'est un jour de deuil pour le peuple kanak. Voilà. On ne peut pas l'oublier parce que ça fait partie de notre combat.
D'autres, comme cette mère de famille originaire d'Ouvéa, se montrent plus sereins mais tout aussi déterminés.
Moi je connais les gens d'Ouvéa, je suis d'Ouvéa. On est calme. Mais quand il y a quelque chose qui reste là, mais faites attention parce que ça peut déborder.
Mais vous savez, il y a une très grande majorité de familles qui souhaitent que je vienne.
Demain, le président a prévu un recueillement et des rencontres à Ouvéa, mais pas de prise de parole publique.
Reportage de Bertrand Galichet. Et alors que la nuit est déjà bien engagée à Nouméa, Nouvelle-Calédonie Première révèle les premiers extraits d'un entretien accordé par Emmanuel Macron, pour qui il faudra bien qu'il y ait un après-référendum. On écoute le chef de l'État.
L'un des enjeux, c'est de garder l'unité. On connaît toutes les divisions, toutes les controverses qu'il y a pu avoir, toutes les histoires et les mémoires qui ont pu se cliver. Enfin, il y a un processus qui s'est engagé depuis 30 ans, qui est unique, unique, et qui a conduit à reconnaître au sein de la souveraineté nationale une forme de souveraineté qui aura à s'exprimer le 4 novembre. Et ce à quoi je veux appeler chacun, c'est justement de tout faire pour que le lendemain, le travail soit possible. Parce que les uns et les autres auront à travailler ensemble, quelle que soit l'issue du référendum.
Voilà Emmanuel Macron sur les ondes de Nouvelle-Calédonie Première. Des forces de l'ordre en plus grand nombre encore que mardi dernier à l'occasion des défilés du 1er mai à Paris. 2000 hommes seront déployés demain dans la capitale pour encadrer et prévenir tout débordement de ce que les organisateurs ont nommé la fête à Macron. C'est une manifestation à l'occasion du premier anniversaire de l'arrivée à l'Élysée du chef de l'État. L'annonce du dispositif policier a été faite tout à l'heure par le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, pour qui les Black Blocs peuvent encore tenter de perturber le cortège. Et justement, la suite des audiences en comparution immédiate aujourd'hui, après les violences du 1er mai, un des prévenus présentés aujourd'hui a accepté de comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, arrêté comme faisant partie des Black Blocs, en possession de bombes de peinture et d'un fumigène. Il dit s'être rendu à la manifestation pour faire des photographies. Compte rendu d'audience depuis le palais de justice de Paris, Antoine Marette.
Tim a 25 ans, il aimerait bien vivre de son métier de cadreur, mais face à la précarité, il est occasionnellement serveur. Et pendant son temps libre, il fait de la photo. C'est pour cela, affirme-t-il, qu'il s'est rendu à la manifestation du 1er mai pour prendre des photos. Sauf que Tim se trouvait au milieu du groupe des Black Blocs, qu'il a tenté d'échapper aux forces de l'ordre lors de son interpellation et qu'il avait les poches pleines de bombes, de peintures et de fumigènes. Mais le jeune homme, au visage maigre et à la fine moustache, ne manque pas d'explications. Les bombes de peinture, il les a ramassées par terre. Il s'est dit que cela pourrait lui servir pour une autre de ses passions, le street art. Quant aux fumigènes, c'était pour agrémenter ses photos de belles couleurs. Il explique qu'il n'était pas là pour commettre des violences ou des dégradations. D'ailleurs, il n'était pas habillé en noir et n'avait pas cherché à dissimuler son visage comme les membres des Black Blocs. Ces arguments ne convainquent pas la procureure qui met en avant son casier judiciaire chargé de 4 condamnations, 3 pour des tags, 1 pour détention de cannabis. Elle réclame 4 mois de prison ferme. Il écope finalement de 1000 euros d'amende.
Antoine Marette, 2700 scientifiques du monde entier ont récemment signé un appel au boycott contre une revue consacrée à l'intelligence artificielle. Elle doit paraître en 2019. Elle s'appellera Nature Machine Intelligence. Elle sera entièrement numérique et payante. Cette revue est lancée par le groupe de la très célèbre revue Nature. Le texte de l'appel au boycott a été publié en début de semaine par une université américaine. Les chercheurs qui la signent s'engagent à ne pas contribuer, et de quelque manière que ce soit, à cette nouvelle revue, c'est-à-dire qu'ils ne publieront ou ne corrigeront aucun de ses articles. Tiffaine Cicéron.
Pierre Alquier est enseignant-chercheur en statistiques. Il a décidé, comme un peu plus de 2000 chercheurs internationaux, de boycotter la future revue de Nature sur l'intelligence artificielle. Pour une raison, il existe déjà des publications sur le sujet et elles sont gratuites.
En machine learning et en intelligence artificielle, on a un journal qui s'appelle JMLR, Journal of Machine Learning Research, qui est le journal le plus prestigieux mais qui est aussi complètement gratuit et libre d'accès. N'importe qui peut aller lire les articles sans restriction. Donc le fait que Nature essaie de créer un journal pour empiéter sur celui-ci, ça on a quand même trouvé que c'était problématique. L'appel qu'on peut signer aujourd'hui sur Internet, c'est un appel pour essayer de défendre un petit peu ce modèle d'accès libre et de faible coût pour les universités.
Faible coût car l'abonnement annuel à une revue scientifique peut aller de 50 à 23 000 euros. Un prix inabordable pour certaines universités qui ne peuvent pas cumuler les abonnements. Et pourtant, ce sont bien les chercheurs qui écrivent et corrigent gratuitement ces articles, sur lesquels les sociétés privées d'édition réalisent ensuite près de 40% de marge. Un système aujourd'hui dont les scientifiques ne veulent plus. Marin Dacos est chercheur au CNRS, lui a créé la plateforme Open Edition qui donne accès gratuitement à des publications scientifiques.
C'est l'idée de reprendre le contrôle du système d'édition. Ça veut dire que cette communauté, elle a désormais dans ses valeurs fondamentales l'ouverture et la transparence de sa production scientifique. C'est une bonne nouvelle.
Et si c'est avec cette communauté, précisément les chercheurs en intelligence artificielle, que se trame la révolution, ça ne tient pas du hasard. Ce domaine de recherche est nouveau, il n'y a pas de revue installée depuis longtemps qu'il faudrait déloger. Et puis les découvertes avancent si rapidement que pour la profession, l'évidence, eh bien, c'est de partager en continu les connaissances.
Reportage de Tiffaine Cicéron. En Suède, l'Académie Nobel, plus mal en point que jamais, vient d'annoncer ce matin une décision il y a peu impensable. Elle ne décernera pas cette année de prix Nobel de littérature. La récompense, dans le meilleur des cas, ne sera attribuée que l'an prochain, en même temps que celle de l'année 2019. Cette décision n'a pas franchement surpris en Suède, où des rumeurs couraient depuis plusieurs jours, toujours dans le cadre des révélations sur une affaire de harcèlement sexuel et des démissions qu'elles ont provoquées. Sur place, cela dit, les observateurs indiquent que peut-être avons-nous là le premier signe que l'Académie Nobel a pris enfin la mesure de la gravité du scandale. À Malmö, en Suède, Anne-Françoise Hiver.
Eh bien, cette annonce a beau avoir suscité beaucoup de stupeur en Suède ce matin, elle est finalement accueillie avec du soulagement. Certes, la décision de ne pas décerner le prix Nobel de littérature cette année est un coup dur pour l'Académie, pour la Suède aussi. Ce n'est arrivé qu'à 7 reprises dans l'histoire de la récompense depuis 1901. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le mouvement MeToo aura donc eu le même effet, constataient ce matin les journaux suédois. Beaucoup y voient cependant un signe encourageant, le premier depuis le début de la crise. En décidant de reporter le prix, les académiciens montrent enfin pour la première fois qu'ils semblent comprendre la gravité de la situation, ce dont beaucoup en Suède doutaient jusque-là, au vu des déclarations de certains des sages qui n'ont pas encore démissionné. car l'institution n'est plus que l'ombre d'elle-même, avec 10 membres sur 18, les autres sont partis, volontairement ou non, ce qui cause un problème supplémentaire. Et l'UAVI, le règlement interdit de pourvoir de nouveau leur fauteuil avant leur mort. Le roi, protecteur de l'institution, a annoncé qu'il était prêt à modifier les règles pour pouvoir nommer de nouveaux académiciens. Mais là encore, c'est un processus qui va prendre du temps et surtout dont dépend l'avenir de l'institution.
La correspondante de France Culture en Suède, Anne-Françoise Hiver. En Turquie, un candidat de poids et très pugnace déclaré aujourd'hui en vue de l'élection présidentielle anticipée qui aura lieu le mois prochain. Ce candidat est issu des rangs du CHP, le Parti Républicain du Peuple, les Kémalistes. Il est député et réputé pour être un très bon orateur et un adversaire farouche à Recep Tayyip Erdogan, le président sortant. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir.
Chef du service international de France Culture, vous nous brossez le portrait de ce candidat bien connu en Turquie, nommé Muharrem İnce.
Oui, Muharrem İnce, c'est probablement ce qui ressemble le plus à un Recep Tayyip Erdogan de gauche, ou au moins d'opposition. Volubile, très bon orateur, et déjà célèbre pour ses bons mots, le député Diallova a donc été adoubé par ses pairs du CHP, le Parti Républicain du Peuple, pour affronter le président sortant, ce qui promet quelques belles joutes oratoires en perspective. Surtout, Muharrem İnce devrait pouvoir séduire un électorat plus large que les quelques 20% d'électeurs que le vieux parti kémaliste réussit bon an mal an à recruter à chaque consultation. Cet ancien professeur de physique chimie de 54 ans, régulièrement élu depuis 2002 dans sa circonscription de Yalova sur la côte sud de la mer de Marmara en face d'Istanbul, est d'ores et déjà celui qui, depuis les rangs de l'Assemblée nationale, fustige régulièrement et ouvertement Erdogan et son régime. Il a par exemple promis, s'il devenait un jour chef de l'État, de vendre le gigantesque palais présidentiel qu'Erdogan s'est fait construire à Ankara il y a 4 ans. Il peut séduire aussi bien un certain électorat conservateur, il n'hésite pas par exemple à parler en termes positifs du port du foulard islamique, mais aussi des électeurs proche du HDP, pro-kurde. Mais il aura affaire à forte partie dans cette campagne qui est sur le point de débuter. D'abord à cause de la toute-puissance d'Erdogan et de l'omniprésence de son parti, l'AKP. Ensuite parce que l'opposition aligne effectivement deux autres candidats. La nationaliste Meral Akşener, à droite, créditée de 20% d'intention de vote, et à gauche, le président du HDP, pro-kurde, Selahattin Demirtas, qui, bien qu'actuellement incarcéré, pourrait tout de même réunir sur son nom quelques 6 à 8% de l'électorat. Une dispersion du vote d'opposition qui assure d'ores et déjà à Erdogan d'arriver en tête au premier tour, mais qui pourrait aussi permettre à cette opposition, en ratissant large, d'aller au-delà des 50% à l'occasion de ce premier tour le 24 juin prochain, et de contraindre ainsi Recep Tayyip Erdogan à un second tour, ce qui serait déjà une véritable prouesse.
Merci Éric Biegala. Le chômage est à un plus bas historique aux États-Unis. Le nombre des demandeurs d'emploi pour le mois d'avril vient d'être publié par le département du travail. Ça fournit une belle occasion à Donald Trump pour en tirer profit politiquement, sans arriver à faire oublier toutefois les côtés plus sombres de la statistique. Grégory Philippe, c'est l'envoyé spécial permanent de France Culture à Washington.
Un taux de chômage à 3,9%, au plus bas depuis 17 ans, 164 000 emplois créés au mois d'avril. La baisse de cette courbe est continue depuis 2011 et aujourd'hui, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, les États-Unis connaissent quasiment une situation de plein emploi. Mais ce bon résultat est à relativiser, les statistiques ne prennent pas en compte les Américains considérés comme inactifs, qui ont renoncé à chercher un travail, et cette diminution de la courbe du chômage est à mettre en parallèle avec le nombre grandissant d'Américains qui ont besoin de bons aliments, ne serait-ce que pour se nourrir. Donald Trump s'est en tout cas immédiatement félicité de ce résultat dans un tweet. 3,9% alors que dans le même temps, écrit-il, je suis victime d'une chasse aux sorcières et la situation est ici parfaitement résumée en quelques mots. De bons résultats sur le plan économique, mais un président empêtré dans l'enquête russe et les révélations sur sa liaison avec une actrice porno, le tout à 6 mois des élections de mi-mandat.
Grégory Phillips, Donald Trump qui affirme ce soir avoir calé une date et avoir déterminé un lieu pour le sommet qui doit lui permettre de rencontrer Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, très prochainement. Les informations seront bientôt annoncées d'après le président américain. Qui décide sur Internet de la publication ou de la dépublication de certains types de contenus et sur quels critères, avec quelles règles? La question est vieille comme le concept déjà ancien de la neutralité du net et elle revient dans l'actualité aujourd'hui alors qu'on apprend que les pages Facebook du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire ont été dépubliées. Facebook, via un porte-parole, faisait savoir hier soir que les organisations ou les personnes qui encouragent la haine ne sont pas autorisées sur la plateforme. plateforme, ce qui ferait partie, d'après l'entreprise, des standards de la communauté. Il faudrait plutôt parler de double standard et d'une profonde hypocrisie de Facebook en la matière. C'est ce que estime Arthur Messot, il est juriste à l'association La Quadrature du Net.
Facebook, Instagram ou même YouTube et les autres ne sont pas des espaces de débat public. C'est des espaces privés et comme la télévision, ça fonctionne pareil, c'est eux qui choisissent quoi mettre en avant. Et ils mettent en avant ou ils censurent en fonction des intérêts économiques privés et ils n'ont pas un rôle à tenir de permettre la liberté d'expression et d'ailleurs ils le feraient très mal. Techniquement, Facebook peut bloquer tous les contenus haineux ou essayer de les bloquer s'il veut. Parce que les moyens de surveillance qu'il a sur tous les individus sont tels qu'il peut s'amuser à les bloquer de façon même excessive, même des contenus qui ne seraient pas haineux, mais en tout cas faire en sorte de bloquer suffisamment pour empêcher des discours de haine ou des discours trop anxiogènes de se répandre. Mais Facebook n'a aucun intérêt à faire ça, parce que les discours haineux, les clashs, les débats inutiles, ça c'est ce qui fait que les utilisateurs, que beaucoup vont rester, vont s'oublier sur la plateforme et avoir leur esprit le plus disponible et le plus fragile face à la publicité que Facebook est payé pour diffuser. Et là, de temps en temps, quand il y a un contenu ou un groupe qui fait plus de bruit que les autres, pour donner bonne conscience, pour se présenter un gardien de la morale, tout d'un coup, Facebook va le censurer. Mais en fait, dans le reste de son activité au quotidien, Facebook met en avant, favorise des contenus qui nuisent au débat public, qui nuisent à la bonne compréhension entre les individus.
Des propos recueillis par Camille Magnard. On en arrive à 18h16 à l'enquête de cette édition. Elle est consacrée ce soir aux petites magouilles du monde un peu obscur, des pompes funèbres. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France, vous avez enquêté sur les petites et les grandes arnaques du marché de la mort.
Oui, parce que le funéraire, c'est un marché très rentable. Aujourd'hui, le prix moyen des obsèques en France dépasse les 4000 euros et la facture continue à augmenter. Alors qu'officiellement, la fin du monopole et la libre concurrence étaient censées faire baisser les prix, c'est tout le contraire qui se passe.
Voilà, et dans ce marché, il y a la prévoyance obsèque.
Oui, avec 5 millions de personnes qui ont déjà signé des contrats obsèques, le principe est simple, vous cotisez pour qu'on vous garantisse un capital pour financer vos obsèques. Le problème, c'est que bien souvent, si vous ne lisez pas à la loupe toutes les clauses de votre contrat, vous pouvez cotiser jusqu'à 10 fois la somme qu'on vous donnera à la fin.
Ces contrats obsèques, Philippe, c'est aussi un moyen d'orienter la clientèle
vers l'un des trois grands groupes funéraires, alors que la loi l'interdit. Il s'agit, vous l'avez compris, de garder la main sur le capital qui finance ces obsèques. Prenons le cas bien réel d'un client de l'assureur Aviva. Il souscrit un contrat obsèque sans préciser quelle entreprise doit l'enterrer. Et c'est son droit, il peut changer d'avis à tout moment. Son assureur le relance et lui fournit une carte avec un numéro vert gratuit. Et derrière ce numéro, il y a, devinez qui, le numéro 1 français des pompes funèbres, OGF. Et bien sûr, l'idée, c'est que la famille du futur défunt appelle ce numéro-là et pas un autre, comme nous l'explique Ophélie Chauffer, gérante indépendante de pompes funèbres dans la Marne.
Dans la panique, la famille, elle trouve la carte, elle voit un numéro, elle appelle ce numéro. En fait, derrière, c'est le plateau d'assistance du groupe OGF qui va lui dire d'aller dans l'une de ses agences. Pour moi, c'est clairement du détournement de clientèle.
Alors, j'ai montré cette carte avec le nom et le numéro d'OGF au directeur marketing du groupe, Jean Ruellan. Écoutez sa réaction.
Je ne vois pas où est le soupçon. Je ne vois pas.
C'est bien une plateforme, c'est bien la vôtre.
Oui, c'est une plateforme qui va informer la famille, qui va lui proposer d'entrer en contact avec un opérateur funéraire pour l'aider dans ces moments difficiles. Elle est où l'entente ? Elle n'existe pas.
Comment vous expliquez cette carte de souscripteur qui vous cite en premier ?
Mais c'est une information, monsieur.
C'est une publicité, ça n'est pas une information.
Une information.
Ça, c'est plus que de l'influence, là. C'est même pas marqué publicité dessus.
C'est fini, ça. On est en 2018, c'est fini.
Voilà, ce serait donc révolu selon OGF. En tous les cas, pour le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui a réformé les pompes funèbres, on est allé maintenant beaucoup trop loin.
Je considère qu'il s'agit d'une manière de capter une clientèle. Et je veux dire ici à votre antenne qu'un grand nombre de contrats obsèques sont contraires à la loi. Et je dénonce ce qui est le détournement du contrat obsèque pour en faire simplement une opération financière. Chacun peut saisir les tribunaux compétents pour dénoncer les contrats obsèques, tout simplement.
saisir les tribunaux. C'est justement ce que compte faire un des derniers réseaux de pompes funèbres indépendants, le réseau Funéris, qui dénonce une entente illégale entre les banques, les assurances et les grands groupes du funéraire et qui va déposer plainte pour détournement de clientèle et concurrence déloyale.
Merci Philippe Reltien. Votre enquête en intégralité est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Encore du grand beau temps demain sur le nord de la France métropolitaine. Au sud, en revanche, Météo France prévoit un temps toujours dégradé sur les régions méditerranéennes. Le temps restera menaçant dans la journée. Des pluies parfois orageuses arroseront les reliefs, notamment sur les Alpes du Sud et sur les Pyrénées orientales. Les températures seront partout en hausse. Demain, jusqu'à 13 degrés pour les minimales, 25 degrés dans l'après-midi pour les maximales.